collective. L'événement est porté par le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, basé dans Limoilou. Les 3, 10 et 17 mai, les participants pourront assister à des ateliers en ligne portant sur des sujets comme la paternité, l'intervention auprès des hommes autochtones, ceux issus de la diversité sexuelle ou de l'immigration, ou encore les pratiques d'intervention à distance auprès de la clientèle masculine, entre autres. L'événement prendra fin le 19 mai avec une conférence sur la bienveillance envers soi-même. C'est donc un rendez-vous. Julie Réaume nous en parle sur monquartier.québec. Machine de cirque lance sa première campagne de financement afin de restaurer et préserver l'église Saint-Charles de Limoilou. Avec un objectif de 250 000 $, la campagne s'effectuera en collaboration avec la paroisse Saint-François de Laval et se déploiera en 3 phases. Les travaux de préservation et de restauration du bâtiment permettront d'assurer la sécurité et le développement des activités du centre de création pour les créateurs et les créatrices de tous les horizons de se rencontrer et de créer. La première phase de construction visera à restaurer la ferme entrée des clochers ainsi que la maçonnerie et les ouvertures de la façade. Cette première étape poursuit la transformation déjà amorcée. Elle permettra d'offrir un toit à la communauté artistique de la région qui fait d'ores et déjà la fierté du quartier. Dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, joignez-vous à la REPAC lors de la manifestation contre le racisme et le profilage racial. Le défilé partira du parc de l'Amérique française le 27 mars à 13h. Y seront revendiquées la reconnaissance de l'existence du racisme systémique, la reconnaissance du profilage racial par la SPVQ, ainsi qu'une nouvelle et réelle consultation des groupes de la diversité basée sur le dialogue. Plus d'informations sur l'événement Facebook « Manifestation contre le racisme et le profilage racial ». L'organisation de hockey Québec Chaudière-Appalaches est à la recherche d'un nouveau commanditaire. Leurs championnats régionaux auront bientôt lieu, une première depuis 2019, même si la place de commanditaire principal est vacante. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et ckiafm.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Jardinier reçu sur les ondes de CKIA FM 88.3. Je m'appelle Larry Hodgson et je vous parle, comme à chaque semaine, de mon sous-sol, mon petit bureau sous-sol, à ma maison à Sainte-Foy, au Québec. Au cas où, parce qu'il y a assez souvent des gens de l'étranger qui écoutent. Donc voilà. Côté température, wow! Ça va être doux. À partir d'aujourd'hui, et doux, mais on parle même à Québec, on parle de 11 demain. 11! Wow! C'est incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le chaleur comme ça. Puis toute la semaine, ça va être, paraît-il, le jour, pas la nuit nécessairement, mais le jour en haut de zéro. Donc la neige qui a accumulé, il y en a pas mal à Québec. Paraît-il, mon fils m'a dit qu'à Montréal, il y en a, très peu là. Québec, on a une bonne hiver à Québec. D'ailleurs, je viens de voir ça dans une... Je suis faisant d'autres recherches. Québec était 5e ville au monde pour la quantité de neige annuelle. Donc, OK. Il ne manque pas de neige ici. Donc, on peut voir un peu le météo à Québec. Là. Ailleurs, ça va être similaire, j'imagine. Mais le jour, là, c'est au zéro tout le long.
Larry, ah. je regarde la météo. Vendredi 11... Samedi 2. Heureusement qu'on n'est pas en bas du point de congélation parce que ça ferait de belles glaces. On est chanceux, on va rester quand même dans des températures pas trop froides, ce qui créera pas de glace. En tout cas, on l'espère.
Bien, je présume aussi que la sève va commencer à couler dans les érables avec des températures semblables. Fait que, allez-y, on va commencer notre récolte de nos érables à la maison. Et voilà. Et
si je peux encourager les gens, la Sainte-Pâte, c'est pas encore passé.
Parce que je ne sais pas si c'est partout dans la province, mais Québec, on est toujours, il y a une tempête à la Sainte-Pâte.
Tout le temps.
Fait que, on n'a pas rendu là encore. Bientôt. OK, voilà. Donc, on peut voir, Michel, est-ce qu'on a des questions?
Oui, on en a quelques-unes déjà. On va y aller avec celle de Aiden Knight. Bonjour, M. Hutchin. Que peut-on faire pour enrichir le sol si on plante ses tomates à peu près au même endroit d'une saison à l'autre en raison d'un manque d'espace ensoleillé? Merci.
La même chose qu'on aurait fait n'importe où. Hein? On peut rajouter du compost tous les ans. C'est et pour donner certains minéraux, mais aussi pour maintenir la qualité du sol. Et on peut rajouter un engrais complet, un engrais de tout usage complet, sans problème. Je sais que ce n'est pas exactement un mythe de répéter toujours la même plantation au même endroit et puis le sol dans certains minéraux. Il y a de vrai là-dedans. Puis c'est sûr que les minéraux, ça se remplace facilement. Donc, ce n'est pas ça le gros. Là où le plus grand risque de planter toujours au même endroit, c'est les maladies. Les maladies ont tendance à s'accumuler. Certaines maladies, non. Si la maladie est transportée par le vent, ben écoutez, il y a autant de risques là où il y avait la plante l'année précédente que ça prenait ici. Mais si c'est transporté par le sol, et beaucoup le sont, là, il y a un risque que ça se répète. Et donc, on voit qu'après des années, ça peut arriver. Mais côté richesse du sol, si vous faites une fertilisation tout à fait ordinaire, ça va bien aller. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et d'ailleurs, vous ne dites pas si c'est dans un pot ou pas, mais en pot ou en contenant quelconque, si on arrive au point où on voit des maladies s'accumuler, ça ne va plus. Vous pouvez toujours verser le terreau ailleurs sur le terrain, parce que c'est quand même bon. C'est juste pour les tomates ou pour les tels légumes qui ont un problème. Et nettoyer le pot et recommencer avec une tôle frais. Mais pour les minéraux, ce n'est pas un gros problème.
On va y aller avec une prochaine question de Guylaine Bouchard. Dans votre livre, vous inscrivez souvent « Protéger du soleil direct en été ». Est-ce que cela est valide pour le soleil du matin?
Non. L'idée, c'est une façon d'essayer de, sans écrire un paragraphe à chaque fois, c'est ma façon de... Pour moi, le soleil direct, c'est l'après-midi que c'est un problème. Comme pour les êtres humains, à peu près. Hein? Quand le soleil est très intense, il y a plus de tendance de brûler, les plantes perdent plus d'eau. Et donc, c'est ce soleil-là qui peut être nuisible. Le soleil du matin, c'est vraiment pas nuisible. C'est le soleil le plus bénéfique dans un sens, parce que cette période-là de journée, il ne fait pas chaud. Et que les plantes reçoivent pas l'éclairage, plein de soleil, c'est possible. Et pas encore de chaleur, ce qui fait que... je viens d'avoir un avis, Michel, que le broadcast est terminé. Peut-être vérifier voir si ça marche. En tout cas, on va continuer pareil. Donc, ça veut dire que la plante va mal réagir. Si on a...
En fait, Larry, on va se donner 2 secondes. On a un petit problème avec Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais tenter de le rebrancher parce que là, il n'y a plus personne qui peut nous entendre via Facebook.
OK, parfait. Donc,
donne-moi une seconde.
Si j'avais une voix, je vais vous chanter en attendant, mais je ne le ferai pas. Vous aimeriez vraiment pas ça si je me mettais à faire ça.
C'est reparti. Et on s'excuse, chères personnes qui nous regardent sur Facebook. On a eu un petit souci, justement, avec Facebook. Donc, Larry, je te laisse continuer.
Oui, puis là, j'ai oublié la question. Et que ça va bien.
Malheureusement, je l'ai perdu également parce que le chat avec la plateforme qu'on utilise s'efface quand je recommence. Donc, malheureusement, aux personnes qui nous regardent, via Facebook. La personne devra réécrire sa question pour qu'on puisse terminer la réponse. Mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Les gens se rebranchent probablement très lentement, mais faudrait voir avec Marlène. J'imagine que le retour sur Sekaya est déjà fait. Donc, est-ce que tu as des questions de toi, de ton côté, pour ce qui est des questions courriel?
Oui, j'ai plus de questions sur courriel, si je peux trouver ma souris. Tiens, voilà. Ici, c'est une question de Carlos qui dit « J'ai un arbre de tulipes de Virginie depuis 8 ans. Il mesure plus de 3 mètres de haut et en parfaite santé. Sous notre climat, Sainte-Julie, Rive-Sud de Montréal. D'ailleurs, merci beaucoup. J'aime bien savoir où vous êtes. Ça m'aide beaucoup dans mes réponses. Est-ce qu'on peut tailler les branches trop basses et si oui, quel serait le meilleur bois? Bon, donc un arbre, dans ce trou, peut-être un tulipier de Virginie, mais dans le fond, ça aurait pu être n'importe quel arbre fait caduc, quand on parle. C'est toujours la même situation. C'est que les branches inférieures commencent à poser problème. Nous, on aime nos arbres avec un tronc et des branches assez hautes qu'on puisse marcher sous. Quand l'arbre est jeune, pas de problème. C'est tout petit, ça ne dérange pas les branches inférieures et ça donne une apparence plus fournie. Donc, quand on achète un arbre, on plante un arbre, habituellement, il y a des branches, peut-être pas jusqu'à la base, mais assez hautes et c'est parfait. Mais quand l'arbre grandit, ces branches-là s'allongent et tout d'un coup, on ne peut plus marcher sous l'arbre, on peut passer la tondeuse, on ne peut plus faire ça, etc. Mais on peut toujours enlever les branches inférieures et ça ne nuit pas. Ça, c'est une chose qui surprend les gens parce que c'est comme, on coupe une branche, ça doit être terrible. Mais non, il faut penser que dans la nature, un arbre comme ça, le tulipier, pousse d'habitude en forêt. C'est son milieu naturel. Il pousse et il pousse assez rapidement vers le haut parce que la lumière va plus haut. Il va se dépasser les autres arbres. C'est là où il va trouver sa lumière. Les branches inférieures vont être de plus en plus ombragés parce qu'il fait des branches plus hautes. Donc, ces branches-là finissent par mourir et par tomber. C'est ça, quand on rentre dans une forêt, on voit beaucoup d'arbres avec aucune branche à la base et beaucoup de branches en haut. C'est le pas normal pour ces espèces-là. Par contre, quand on plante dans un milieu plus ouvert, la lumière arrive de tous côtés, pas juste en haut, mais de tous côtés. Et l'arbre conserve ces branches-là. Et les feuilles restent. Il devient comme une forêt quasiment soi. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire la croissance de la plante. La plante peut très bien vivre avec seulement des branches supérieures, comme il fait dans la forêt. C'est comme un supplément qui ne donne pas grand-chose. Donc, on peut éliminer les branches inférieures. Je suggère de ne jamais couper plus qu'un tiers des branches dans une année. Donc, si l'arbre a très peu de branches en haut, je n'en couperai pas beaucoup en bas, mais on peut couper ces branches-là en faisant attention de couper juste en dehors la boursouflure qui indique où est la nouvelle croissance de l'arbre. Et on peut les enlever soi-même. On n'a pas besoin d'arboriculteur pour faire ça. Ça, c'est notre niveau. Donc, vous taillez ça, vous les enlevez. On appelle ça, entre autres, monter la cime de l'arbre. Monter la cime, autrement dit, vous dégagez le bas. Parce que, c'est peut-être une anecdote ou chose à penser. Beaucoup de gens s'imaginent que les arbres poussent et les branches inférieures, en poussant, vont monter. Mais c'est pas ça qui arrive. Le tronc ne bouge plus. C'est le haut que ça pousse. Les branches en bas vont rester en bas. Donc, on peut les couper et dégager. Moi, je recommande aux gens, tout simplement, de tailler à peu près quelque chose dans les 1,80 m, 2 m, quelque chose comme ça, pour que les gens puissent passer sans se cogner la tête. Tout simplement. Si vous coupez les branches inférieures à l'épaule, pas de souci tellement. Si c'est en haut de l'épaule, mettez un casque. Mettez toujours des gants de sécurité, des gants, bien sûr, mais aussi des lunettes de sécurité, parce que un écharpe, c'est un écharpe. Hein? On ne veut pas que ça rentre dans l'œil, mais on peut le faire soi-même. Si ça commence plus haut que la tête, là, c'est mieux d'avoir un arboriculteur. Question de sécurité. Mais on peut faire ça et l'arbre n'en souffre pas. Encore pas plus qu'un tiers des branches dans une année sur le total. Mais ça se fait très bien. Et c'est ce qu'on fait dans les parcs. Et c'est comme de la nature. On remplace la nature, dans le fond. Donc, il n'y a pas de problème avec ça.
On a une prochaine question de Patricia Dufresne qui écrit « Pouvez-vous me parler des vers blancs dans nos sols et que pensez-vous de nématode? »
Nématode. Ah ben, nématode. OK, voilà, oui. Les vers blancs. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Je les aime pas. OK, ça c'est premier. Les vers blancs, ce sont des larves. Ce sont pas des vrais vers. Ce sont des juvéniles.
Pardon. On va laisser le temps de Larry de prendre une gorgée d'eau.
Donc, ce sont des juviniles de scarabées de différentes sortes. Scarabées japonais dans certaines régions, d'autres scarabées ailleurs. Et ces larves-là mangent les racines. Et une fois que l'insecte arrive à la maturité, ça quitte, ça devient adulte, ça pond des œufs et le cycle recommence. Donc, le problème, c'est de les contrôler, de faire en sorte que ces larves arrêtent de manger les plantes désirables. En général, le problème est sur les gazons. Il se trouve que les larves de scarabée aiment beaucoup les graminées. C'est le mets principal. Ça peut manger autre chose aussi. Tous les graminées qui vont les nourrir. Donc, on a des problèmes parce que quand elles mangent trop de racines, le gazon va souffrir et commence à brunir. Il peut même mourir par plaques. Typiquement, on voit des plaques qu'on enlève et ça se détache. Toutes les racines ont été mangées. Ça n'arrive pas tout le temps. Vous savez qu'il y aurait toujours des vers blancs dans une gazon. Et c'est normal. Tant que la quantité de vers blancs est raisonnable, limitée, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. Un gazon peut très bien supporter quelques centaines de vers blancs. C'est des milliers où ça ne va pas. Donc, à un moment donné, on en a trop. Donc, la question ici de Patricia, en plus, qu'est-ce que je pense de l'utilisation des nématodes? Les nématodes, c'est une des méthodes pour contrôler les vers blancs. Il y en a d'autres. Les nématodes, ce sont des petits vers microscopiques. Vous n'en verrez jamais. Puis, il y en a pourtant partout dans la nature. Certaines sont bénéfiques, d'autres sont nuisibles, d'autres sont indifférents à nos cultures. Mais il se trouve qu'il y a certaines sortes de nématodes spécifiques aux larves des insectes. Ce qui arrive, c'est que ça entre en contact avec le petit, notre scarabée, la larve, notre scarabée, le ver blanc, et ça rentre dedans et ça commence à manger de l'intérieur. Très agréable. Mais ça finit par le tuer. Donc, ça peut être intéressant. Le problème, il faut l'appliquer au bon moment. Il faut savoir que les méthodes sont beaucoup plus efficaces contre les jeunes larves. Une fois que la larve atteint une certaine maturité, il peut tolérer la présence de quelques méthodes. Quand il est tout petit, il ne peut pas. Fait qu'il faut l'appliquer au bon moment. Donc, normalement, pour la plupart des espèces, on va dire que la ponte des œufs, ça a lieu surtout au mois de juillet, si on veut. Et donc, ce serait bien d'appliquer les nématodes probablement au mois d'août, début de septembre, quand les larves sont tout petites, et arroser, bien sûr, pour que ça fonctionne. Donc, il faut toujours lire l'étiquette avant de l'appliquer, et des bons moments, des mauvais. Il n'y a pas très longtemps, les nématodes devaient être gardés au réfrigérateur. Donc, on les voyait difficilement en magasin, c'est toujours cassé de la vie. Mais de nos jours, on a des vérités, ou pas des vérités, c'est la même vérité, des méthodes nouvelles qui font en sorte qu'on peut les garder en vie au sec, à la température de la pièce. Donc, on peut maintenant les acheter plus facilement et vous les trouvez partout. Je sais que chez nous, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, c'est des boules de plastique avec ça là-dedans. On les applique dans l'eau, en effet. On les met dans l'eau et on verse ça sur le sol. Et ça peut marcher très bien ou relativement bien, ça dépend de bien des facteurs. Mais c'est une façon de réduire. Il faut quand même traiter à tous les ans, dans le sens que, d'abord, des larves, il y en aurait toujours tous les ans, et les nouveaux œufs sont pondus, et également les nématodes en question. Pour l'instant, nous n'en avons pas qui sont résistants aux hivers québécois. Moi, je c'est pas juste une soupçon. Je sais qu'un jour, ils vont en avoir. Il s'agit de trouver la bonne sorte. Et il y a littéralement des milliers, OK? Milliers de variétés à travers le monde. Nématodes. On va trouver quelque chose qui convient à notre climat. Là, ça pourrait être intéressant parce que ça va rester plus long. Donc, c'est une des façons qu'on peut utiliser pour les contrôler. Il y a aussi des champignons ici qu'on peut utiliser maintenant. Il y a également, ben ça, on ne trouve pas tellement au Canada, mais dans d'autres pays, on vend des champignons qui peuvent créer des larves dans le sol. Donc, ça, c'est bien aussi. Nous avons également le BTG. Le BTG est une bactérie, cette fois-là. Encore autre chose, hein? Il y en a tellement de possibilités. Le BTG est une nouveauté depuis 2 ans à peu près, au moins sur le marché commercial, à peu près depuis 2 ans, qu'on applique à peu près de la même façon que les méthodes, et peut-être qu'il est plus efficace. Beaucoup de gens trouvent que c'est meilleur, mais au moins avec le BTG, ça peut vivre plusieurs années dans notre sol. Donc, il y a une certaine capacité de revenir d'une année à l'autre. C'est des choses naturelles. Il n'y a rien de à craindre au niveau de introduire quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Ces choses-là existent dans la nature. Ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la population. Donc, comme le scarabée là est en population extraordinaire, au-delà de la normale, on applique son prédateur au-delà de la normale. Mais c'est le même prédateur. Et que voilà, c'est quelques idées pour les contrôler. L'autre possibilité, c'est de mélanger votre gazon avec d'autres choses. Si vous n'avez que des graminées, c'est comme une invitation au verblas. Si vous avez un gazon composé avec d'autres choses, ça vous donne une chance. Et vous aurez beaucoup moins de possibilités. D'ailleurs, quand on a une pelouse avec beaucoup de trèfles, par exemple, c'est pas que ça ne peut pas manger les trèfles, les verblas, mais c'est pas leur poids préféré. Et donc, ils vont aller là où il n'y a pas trop de trèfles. Et donc, si vous avez un pelouse avec une assez bonne partie de trèfles, même le gazon, même les graminées vont avoir moins de problèmes. Et si la population est réduite, c'est pas un problème. Ça va avoir quelques verblas, c'est pas grave. Fait que ce serait peut-être une possibilité de changer la composition de la pelouse pour éviter ça. Ou complètement enlever la pelouse et mettre autre chose. D'ailleurs, une anecdote assez comique, mais dans les coins à Montréal, où il n'y a pas de pelouse, ben les gens jardinent et ils n'ont jamais de problème. C'est que là où il y a la pelouse qui est le problème. Fait que c'est une autre possibilité. Voilà. C'est compliqué, les verblancs. Je pense que la solution parfaite n'a jamais été trouvée. Donc, il faut expérimenter un petit peu.
D'ailleurs, Patricia Dufresne te remercie de ta réponse tellement complète. C'est très apprécié de sa part. Allons-y maintenant avec la question de Frédéric Martel. Bonjour, M. Hodgson. Lors de la lecture sur le site... je recommence. Lors de la lecture sur le site Internet d'une semencière, on suggérait d'ajouter du, entre guillemets, « sable vert » en petite proportion dans un terreau à semis. Votre avis?
Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire pour sable vert. Je peux penser à plusieurs choses. Ça peut être, c'est probablement pour faciliter l'application du produit, que ce soit des semences très, très fines. Souvent, on va les mélanger avec un substrat, qu'on dit dans ce cas-là, avec un substrat, un porteur, qui va faire en sorte que c'est plus facile à appliquer. Autrement, je ne peux pas vous dire, cette remarque-là, sable vert, ça, par exemple, je ne suis pas très au courant de ça. Peut-être que c'est une aussi. En tout cas, non, je n'ose pas dire plus que ça. Voilà.
Donc, on y va maintenant avec une nouvelle question. Sylvie Lalonde, l'an dernier, mes poireaux ont été endommagés par la teigne du poireau. Cette année, avant de faire mon potager, devrais-je traiter mon sol avec de l'huile de neem? Si oui, comment dois-je l'appliquer?
Non, ce n'est pas utile de faire ça. C'est qu'il se trouve que la teigne du poireau, la teigne, dans ma tête, la teigne est une maladie, mais en fait, dans ce cas-là, c'est une papillon de nuit, un petit papillon de nuit qui pond des œufs et les larves font des dégâts sur les poireaux et d'autres plantes de la famille des aliacées, des oignons, des choses comme ça. Bon, il se trouve que ça passe pas son hiver dans le potager. C'est une de ces insectes-là qui va ailleurs. Donc, ça ne sert à rien de traiter le potager quand l'insecte n'est pas là. Hein? Vous comprenez? Donc, ils viennent d'habitude, ils cherchent des choses un peu plus chaudes. Donc, ils vont souvent hurler près des fondations de maison, mais pas dans le potager même. Donc, c'est inutile de faire ça comme traitement. On peut faire le meilleur traitement, quant à moi, je ne vois pas d'autre vraiment, c'est un traitement d'exclusion. Donc, quand votre potager va être libre de cet insecte au printemps, de teigne, au printemps, semez vos poireaux, mais pas dans la maison. Repiquez vos poireaux dans le jardin et couvrez-les avec une couverture flottante pour pas que l'insecte, quand il se réveille, arrive de l'extérieur. Là, vous devrez voir de meilleurs résultats.
Oui, je suis là. Inquiétez-vous pas. La prochaine question de Guylaine Bouchard. Ah non, de Richard Baudry, tout juste avant. Que pensez-vous des BTI pour éliminer les mouches du semis? Les pièges autocollants ne suffisent pas.
OK. Donc, BTI, on a parlé tantôt de BTG. BTI, c'est une autre variante de cette bactérie très, très, très courante dans la nature. Pour donner son nom, Bacillus thuringiensis. Mais je ne suis pas obligé de l'étaler. Bon, et cette forme-là est spécifique aux larves de mouches. Ça ne s'attaque pas à d'autres choses que ça. Et ça, là, on le trouve le plus facilement sur les produits anti-moustiques, parce qu'un moustique est une mouche. Donc, on l'utilise beaucoup pour les moustiques. Ce n'est pas facile d'en trouver pour utiliser, spécifiquement pour l'utilisation sur les moucherons de terreau. C'est que votre problème est là. Par contre, vous pouvez prendre des... on vend souvent les produits pour les moustiques sous forme de petites rondelles en dehors des Cheerios qui flottent dans l'eau et qui libèrent peu à peu le BTI, les bactéries en question. On peut toujours prendre ça et les écraser et les utiliser. Je n'ai pas la recette exacte. Cherchez sur l'Internet. Comment faire un insecticide anti-mouche en écrasant ce produit-là. Mais ce serait une façon de le faire. Et ça, est-ce que ça fonctionne ou ça marche très bien? C'est efficace. Quand les larves, ça n'éliminerait pas tout de suite. Hein? Les gens, des fois, s'imaginent s'ils mettent un produit que le résultat va leur donner. Mais non, c'est les larves qui vont tuer. Donc, les adultes sont encore là, puis se promènent un peu partout, puis à un moment donné, ils font des œufs, puis là, à partir du moment où vous avez ça dans le sol, les bébés sont tués presque systématiquement. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autre génération. Et là, vous avez un meilleur contrôle. Donc, il faut donner une certaine part pour que ça fonctionne.
Guylaine Bouchard, elle souhaite acheter une Stéphania erecta. Est-ce que c'est une plante compliquée?
Vous savez pas ce que vous voulez dire par plante compliquée. C'est certain que c'est une plante qui exige plein soleil, température assez chaude en tout temps. C'est une plante à fleurs. Donc, comment dirais-je? OK, on va recommencer ça. Moi, souvent, je dis aux gens, commence avec des plantes vertes, sont plus faciles que les plantes à fleurs. Et ça rentre dans la catégorie plantes à fleurs. C'est plus compliqué. C'est pas terriblement compliqué, mais avec une plante qu'on veut voir fleurir, il faut soigner un peu plus, surveiller un peu plus attentivement les arrosages, ne pas manquer son coup avec ci et ça. Donc, c'est pas terriblement compliqué, mais un peu plus compliqué que, disons, une plante verte. Voilà.
On continue avec une prochaine question. Celle de Jeannette Ouellette. Avez-vous un conseil pour distinguer les engrais d'algues les uns des autres? Il semble y avoir une différence marquée, j'imagine, et je saurais trop les comparer.
Oh, non, je ne suis pas mieux que vous. Hein? Je me perds pas. Et c'est pas. Et dans le fond, ce n'est pas d'importance. Ce n'est pas d'importance. Hein? Il s'agit d'utiliser ces engrais-là selon les instructions. Ils vont tous dans des résultats semblables. Donc, il n'y a pas un engrais qui est meilleur qu'un autre. Et les plantes réagissent de la même façon. Donc, il n'y a pas d'inquiétude d'avoir une marque ou une autre marque. C'est la même chose. Je sais que chaque fabricant va trouver une façon pour laquelle son engrais est meilleur que les autres, mais dans le fond, c'est essentiellement la même chose. Donc, moi, je ne m'inquiéterais pas pour les différences. Et si vous en avez déjà utilisé ça, si vous voulez acheter un autre, achetez une marque de quand même, disons, une marque fiable, parce que des fois, on a des marques maison qui ne sont pas de qualité. C'est curieux d'en dire que des marques maison dans les épiceries de nos jours deviennent de plus en plus sophistiquées, mais les marques maison dans les magasins de plantes, c'est souvent moins bon. Fait que faites juste attention un peu avec ça.
Brigitte Roy veut savoir, écrit en fait, « Certains mettent du compost dans leur terreau à semis. Pensez-vous que c'est nécessaire? »
Non. Et d'ailleurs, je ne le fais pas, je ne le recommande pas. Dans les terreaux des plants, plus adaptés, plus nature, oui, c'est excellent. C'est tout simplement que un compost contient quand même des... Surtout quand on produit soi-même le compost, un compost vrai, là, contient quand même des microbes, pour la plupart bénéfiques, certaines moins bénéfiques, mais ce n'est pas au moment de la germination qu'on veut introduire des microbes qu'on ne connaît pas. On a beaucoup mieux que la plante soit partie. Après, quand la plante a des racines et des feuilles, là, la plante serait capable de mieux gérer ça. Parce que si elle introduit, avec, par accident, avec du compost, un microbe qui nuit à la germination, ben, c'est un problème, ça. Donc, pourquoi le mettre au début? Je me souviens très bien, là, je parle il y a tout près de 30 ans, avec la revue Fleurs, Plantes et Jardins, on avait un auteur, on ne dirait pas son nom, qui insistait pour mettre le compost dans ses terreaux pour semis. Il disait, et finalement, il a fini par m'écrire, là, quelqu'un qui fait le jardinage biologique, pour dire, j'ai arrêté de faire ça, je vois bien que ça ne marche pas. Oups! C'est pas toujours, là. Des fois, ça marche très bien. Mais pourquoi prendre le risque? Il y a tellement d'engrais sur le marché. Hein. C'est pas ça un problème. Voilà.
La prochaine question nous vient de Steve Gagnon. Quand je sème mes carottes et autres très petites graines, est-ce qu'il y a un truc pour semer les graines seulement une à la fois? J'ai déjà essayé le ruban et ça n'a pas donné de résultat.
Oui, certaines personnes réussissent très bien avec les rubans. Mais moi et vous, non. Des fois. Oui, mais le truc, c'est de mélanger avec du sable. Là, on pourrait aller chercher notre sable vert tantôt. Mais je ne sais pas si c'est vraiment sable vert. Mais une sable, pas avec sel, bien sûr, juste du sable. Souvent, on va recommander de mélanger les grains avec du sable. Et là, plutôt, par un brin, ça ne marche pas. Et là, vous mélangez les deux et vous l'appliquez avec un mouvement d'aller-retour pour faire une semi à la volée, qu'on appelle. Et on peut faire ça à l'intérieur, à petite échelle, dans une salière, hein? Enlever le sel, bien sûr, avec une salière, ou à grande échelle, on peut prendre un produit un peu plus gros et lancer. Mais c'est une façon de faire qui fonctionne très bien. Et ça fait longtemps qu'on l'utilise. C'est pas une nouveauté, ça.
Annabelle Bowles. Je bousille peut-être le nom de famille, mais je m'excuse si c'est le cas. Donc, elle t'écrit, « Je pense avoir planté mon ail trop creux. Certains cailloux à 12 cm peut-être. Est-ce que je pourrais enlever une couche de terre au printemps pour les sauver? »
Écoutez, 12 cm, c'est pas la fin du monde. Laissez faire. Dérangez-les pas. Parce que tout probablement, quand la neige va partir, peut-être que c'est déjà parti chez vous, pas chez moi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez derrière, pas chez moi, en tout cas. Mais l'ail pousse sous la neige, vous savez. Sa façon de pousser, elle est déjà en train de pousser actuellement. Lorsque le sol commence à dégeler, là, avec les températures qui viennent, l'ail va se mettre à pousser. Et vous risquez de déranger les feuilles. Si les feuilles sont à la surface, pas encore à la surface, elles vont être bientôt à la surface. Laissez faire. 12 cm, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde du tout.
Patricia Dufresne a une autre question. L'an dernier, vers la... je l'ai perdu, ce ne sera pas très long. Elle écrit, l'an dernier, vers la fin de la saison, plusieurs de mes arbres fruitiers ont été atteints pour la première fois d'une, en guillemets, rouille. Je n'ai pas identifié la maladie. Que puis-je faire en prévention cette année? Désolé, ma question n'est pas si précise. Peut-être... pouvez-vous me guider quand même?
Oui. Ben, écoutez, c'est sûr que ça aurait pu être utile, mais vous savez que les maladies qu'on appelle rouille, il y en a beaucoup. C'est une maladie fongique. Puis il y en a beaucoup. Puis les pommiers ont plusieurs sortes. Et il y en a d'autres sortes qui s'attaquent aux amélanchiers. Et d'autres qui s'attaquent à... En tout cas, ça... Même jusqu'aux roses trémières. Donc, c'est vraiment difficile de savoir qu'est-ce qui va sur quelle plante. On n'a pas besoin nécessairement de savoir. Moi, je soupçonne que c'est que la maladie a peut-être toujours été là, mais présente à un niveau pas assez sérieux, c'est ce que vous remarquez. C'est que tous les pommiers ont certaines sensitivités, par exemple, je parle de pommiers, mais ça fait d'autres fruitiers, certains niveaux de sensibilité à cette maladie-là, mais pas toujours à un niveau très, très important. Et si la plante est un peu résistante, la plupart des années, on ne voit pas de symptômes.
Ah, oh. Oh, les fameux cellulaires à la radio ou à la télévision. Ça arrive tellement souvent.
C'est même pas...
Et vive le direct.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Le rouille, c'est ça. Donc, le rouille peut s'attaquer sur des spores qui, dans le cas de pommier, vivent sur une autre plante. Habituellement, c'est un genévrier ou quelque chose de la famille des genévriers. Donc, ça fait partie de sa vie sur ça. Ça peut se transporter le vent sur un pommier. L'année suivante, retourne sur le genévrier pour faire des spores. Parce que aller-retour. Donc, probablement que c'est toujours été là, mais que les conditions n'étaient pas bonnes pour cette maladie-là. Et que probablement que vos plantes sont bien résistantes à la maladie. Ça n'apparaît que lorsque les conditions sont particulièrement propices. Donc, moi, je ne m'inquiéterais pas trop de ça. Attendez un an au moins pour voir si l'été n'est pas la même formule, disons, que l'an dernier. Il y a de très bonnes chances que ça ne vous cause pas de problème. C'est arrivé juste une fois, là. Je ne m'inquiéterai pas trop pour une maladie comme ça. Voilà.
Sarah Pilon veut savoir, elle écrit, « Bonjour, j'ai acheté une racine de mes rocailles hier. Il y a déjà du feuillage vert. Que dois-je faire avec le feuillage et quand puis-je planter cette racine? »
Bon, écoutez, pour l'instant, j'imagine c'est un sac de plastique. Mettez ça dans un endroit frais et faites rien. Si jamais... Vous voyez que ça ratatine, jette une coulée de temps à autre. Ajoutez une goutte d'eau, et je n'exagère pas, une goutte d'eau, juste pour le faire regonfler. Parce que vous êtes aussi bien de la garder en dormance pour l'instant. Parce que l'autre option serait de l'empoter. Mais dans ce cas-là, il faut le mettre devant une fenêtre ensoleillée, il faut le recouvrir régulièrement, et ça ne donnerait pas grand-chose de plus que de le partir dehors. Fait que moi, je le suggère d'attendre. Vous pouvez le planter par contre. Dès que le sol est dégelé et que le sol soit drainé. Parce qu'au début, ne travaille pas dans le sol lorsqu'il est encore détrempé. Au printemps, attendez encore 2-3 semaines que le sol soit comme travaillable, qu'on pourra labourer sans problème. Là, on peut le planter tout de suite parce que le brocal est une plante rustique. Et là, elle est en dormance, c'est une toute petite baie, un bébé dans le fond. Vous le plantez, elle va pousser dès que la température le permet. Donc, ne faites pas votre problème du tout d'attendre. Mais si vous trouvez que le printemps, et on pourrait peut-être le faire. Mais normalement, j'aurais laissé dans le sac et j'aurais rien fait de spécial, sauf le garder au frais.
Richard Baudry te remercie de ta réponse. Il dit qu'il utilise déjà tu as parlé de Cheerios tantôt, oui. De BTI, mais il croit qu'ils sont périmés.
Oh, ça se peut, hein? C'est quand même... Là, on a une situation, c'est vivant, hein? C'est des bactéries vivantes. Et c'est une vie limitée. Donc oui, ça se peut très bien. Il faut probablement en acheter tous les ans pour en avoir. Et des fois, ça peut être... Comme c'est vendu pour les moustiques, les bactéries vendues pour les moustiques actuellement, ça se peut que vous ne le trouvez pas au moment où vous en avez besoin parce que ce n'est pas vendu pour l'intérieur. Donc les moustiques, personne ne vend des produits pour moustiques. Au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, etc., il n'y a pas de moustiques encore. Mais déjà, les jardineries et les quincailleries, d'abord, ils commencent à mettre pour le jardin d'été parce que, pas parce qu'il y en a encore, mais à cette saison-ci, ils mettent les probabilités. Et vous pouvez peut-être le trouver à ce moment-là.
Lucie Desjardins, les poudres d'hormones pour favoriser l'enracinement ont-elles une date de péremption?
Il y en a déjà eu, mais ils les ont enlevées parce que ça ne savait pas, comment dire, ça ne pas rap. C'est que normalement, ça dure des années. Il y a une limite à un moment donné, peut-être 20 ans, 25 ans. Mais moi, je ne m'inquiéterais pas de ça. Je pense que si c'est un produit qui est bon pour 4-5 ans, ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Peut-être marqué quand vous achetez un hormone, notez l'année, et au bout de 5 ans, c'est le temps de changer. C'est tout. D'être péremption, c'est un peu exagéré. Parce que, entre autres, ce qui arrive, c'est qu'il est embêtant, ça dépend des conditions. Ça, c'est vrai. Si vous êtes dans un milieu très humide, c'est rare pour une maison, mais très court dans une serre, le produit va durer moins longtemps. Si c'est sec, ben, ça dure plus longtemps. En tout cas, moi, je dirais 4-5 ans dans la maison, vous êtes bon pour un produit semblable.
Joanne Parent, que pensez-vous des engrais verts? J'ai eu des semences de sarrasin et aussi un mélange d'avoine, blé et pois.
Et je vais dire très honnêtement que je n'en ai jamais utilisé parce que je n'ai jamais eu d'espace pour le faire. Parce que ceux qui connaissent les engrais verts, juste une explication, c'est une plante qu'on va semer pour enrichir le sol avant de commencer la vraie culture. Donc, souvent, on va prendre une année de jachère, une année où on ne cultive pas, et on va les semer au début de la saison, on laisse pousser, et avant que ça monte en graines, parce qu'on ne veut pas que ça monte en graines, sinon ça pourrait être envahissante. Justement, vous avez parlé de sarrasin, vous ne voulez jamais que le sarrasin fleurisse, fasse des graines, sinon ça va devenir un mauvais herbe. Donc, on va les faucher, les intégrer au sol, quand ils sont encore verts, on appelle ça l'engrais vert, ça se décompose et ça enrichit le sol. Le problème, c'est qu'il faut avoir un espace qu'on n'utilise pas pour l'été. Et personnellement, je n'ai jamais eu cet espace-là. Chaque fois que je fais un jardin, j'en avais toujours besoin tout de suite, pas dans 2 ans, tout de suite. Et je n'ai jamais eu comme une situation où j'avais comme 3 potagers ou 4 potagers, je pouvais toujours mettre un potager en jachère pendant un an, pendant que les autres 3 autres fonctionnaient. Je n'ai jamais vécu une situation semblable. Mais c'est là où on utilise vraiment les engrais verts le plus souvent. Aussi, on utilise l'engrais pour commencer un nouveau jardin dans un milieu où il y a beaucoup de semences de mauvaises herbes. Donc, on va souvent... ce n'est pas une méthode que j'utilise parce que personnellement, je ne fais pas de enlever le tourbe et semer. Ça, c'est comme la méthode de mon père. Moi, je ne suis pas rendu là. Moi, je vais rajouter une couche de terre par-dessus, simplement. Ça règle ce problème-là. Mais si vous avez ça comme technique, enlever une couche de tourbe et de semer, c'est peut-être intéressant de faire la première été, encore une fois, de semer densément avec un engrais vert, ce qui fait que quand les mauvaises herbes germent, les graines vont germer, elles vont essayer de pousser, mais l'engrais va vite, l'engrais vert, la plante de l'engrais vert va vite les étouffer. Parce que ça prend toute la lumière. Ça prend la lumière pour pousser. Et on peut faire ça pour éventuellement contrôler. Souvent, on va faire 2 semis dans ce cas-là dans l'année pour essayer de limiter les graines aux mauvaises herbes. Et certaines sols sont tellement contaminés aux mauvaises herbes qu'il faut le répéter pendant 2 ans ou plus. Voilà.
Annie Hull a plusieurs questions dans sa question. On va y aller étape par étape. Je pense que ça va être beaucoup plus facile pour toi de répondre et elle de bien comprendre. Elle écrit pour la conservation de nos semences dans des endroits frais et secs, à l'abri de la lumière, est-ce ça? Est-ce que c'est comme ça, dans le fond, qu'elle veut savoir?
Et donc, la première chose, oui.
À l'abri de la lumière aussi, c'est vrai.
Oui. Quand vous voulez conserver les semences, idéalement, ça se fait à la noirceur, au sec, au frais. Et dans le fond, le pire, et c'est vraiment zéro, mais après ça, noirceur, ça aide un peu. Et il ne faut pas que ce soit humide, surtout. Mais ce que je fais, moi, je les conserve au frigo, dans un bocal scellé, et je mets toujours un petit sachet de gel de silice pour que ce soit sec, sec, sec. Et là, ça se conserve un maximum de temps.
Okay. On poursuit justement avec Annie Hull. Comment valider que nos semences sont encore bonnes.
Ah, il faut essayer. Moi, ce que je fais, je recommande aux gens, faire un test avec 10 graines. Mettez ça sur une feuille de papier essuie-tout, un petit peu humide, ça met 10 graines bien espacées, pliez pas dessous, comme faire un sandwich, avec le papier, pas dessus des graines. Mettez ça dans un sac de sandwich scellé, mettez ça dans un endroit assez chaud et un peu éclairé, et regardez voir qu'est-ce qui se passe. Si vous avez une excellente germination, tout est beau. Si ça germe juste un peu, ce n'est pas des semences de qualité. C'est mieux de recommencer avec d'autres.
OK. Et on continue. Est-ce vrai que lorsque l'on met dans l'eau et qu'elle cale, c'est qu'elles sont encore bonnes?
Ça veut dire que le grain a absorbé de l'eau. Pour des graines plus grosses, c'est une façon d'aider. Ça aide beaucoup, mais c'est pas exactement la même chose. Ça ne veut pas dire qu'elles sont, comment dirais-je, viables tout à fait. Ça veut dire qu'il y avait une germe de l'eau. Donc, c'est une indication. Mais ça indique que surtout certaines graines n'ont pas de germe. Et quand il n'y a pas de germe, ça flotte. Ce qui fait que ça aide. Ça élimine pas mal. Et dans le cas, surtout des plus grosses graines. Pour ça, parce que sinon, on ne voit pas la différence.
Dernière question dans sa très longue question. Et enfin, comment de temps pouvons-nous les conserver?
Au moins 10 000 ans. Est-ce que c'est une bonne réponse? Mais ça, ça dépend des conditions. C'est une question de conditions. Là, j'exagère un peu, mais ça se fait. Vous savez, quand on a des bases de semences sous la glace, en Norvège, où on va maintenir des températures fraîches, je ne sais pas, moins 54 ou quelque chose comme ça, et on calcule que les graines vont durer un peu plus de 10 000 ans, comme ça. Mais à la chaleur, ça dure beaucoup moins longtemps. Aussi, ça varie de chaque plante, une plante à l'autre. Donc, vous pouvez avoir des semences, vos légumes préférés et légumes comme une tomate. Tomate, c'est 5 ans et plus. Moi, j'ai des tomates 10 ans, c'est jamais encore. Les tomates, c'est longue, longue vie. Carottes, pas autant. Et encore pire, les oignons. Les oignons, c'est comme une année, presque pas bon après. Donc, c'est extrêmement variable. Je vous suggère d'aller sur mon site web, joannyperdesse.com, et de chercher tableau de conservation des semences. Là, j'ai ceux qui me connaissent, des pages de listes avec combien de fois que ça peut durer, sous de bonnes conditions. Hein? C'est sous de bonnes conditions. Mais certaines durent longtemps et d'autres pas du tout. Donc, il faut le savoir.
Jeannette Ouellet, j'ai hérité de ma voisine des bacs à fleurs de plastique qu'elle n'utilisait plus. Ce sont des modèles rectangulaires avec crochets. Pour les accrocher à une balustrade, il ne me semble pas très profond, environ 8 pouces. Auriez-vous des conseils de fleurs et de fines herbes qui sont plus résistantes à la sécheresse?
En tout cas, je vois que vous comprenez ce qui se passe. Non, ce n'est pas profond. C'est très peu profond. D'habitude, je déconseille la culture en pot de moins de 30 cm de haut parce que ça sèche trop vite. Et on a beaucoup de difficultés avec ça. Quelques fines herbes qui tolèrent la sécheresse. Il y a la lavande, il y a le romarin, le thym, l'origan, mais pas des variétés qui poussent vite. Essayez pas, par exemple, aneth ou encore coriandre. Ça va trop vite. C'est des plantes qui ont besoin d'eau tout le temps. Donc, il faut juger un peu. Mais ces plantes-là peuvent durer plus longtemps. Côté des fleurs, on peut toujours aller vers des plantes adaptées à la sécheresse, comme par exemple le pourpier, la grande fleur, c'est très adapté à la sécheresse, pas de problème. Et le romarin peut compter pour deux, hein, ça peut être ou une fine herbe, ou ça peut être une plante à fleurs. Mais encore, allez sur mon site web, vous allez trouver des listes de plantes résistantes à la sécheresse. Ça va vous aider.
Je pense que c'est la première fois que je vois ça depuis qu'on fait cette formule-là de questions-réponses, que c'est moi qui pose des questions. Mais les gens se répondent entre eux.
Oui, tant mieux.
C'est vraiment cocasse. Mais il y a évidemment des gens qui ont des questions. Oui. Dont Danny Marin. ma sœur n'a pas planté ses bulbes de tulipes l'an passé. Et là, certains commencent à pousser. Que pourrait-il se passer si elle les plante ce printemps?
OK. D'abord, dites à votre sœur de ne pas prendre l'habitude de faire ça. C'est pas la bonne horticulture, ça. C'est que ça dérange tout le système de la plante. C'est une plante qui est faite pour passer l'hiver dehors, dans la terre. Et quand vous ne le faites pas passer l'hiver dehors, dans la terre, la plante a des difficultés. Si les plantes maintenant, ce qui va se passer, c'est que la plante, et surtout si les plantes tôt, maintenant c'est exagéré, mais dès que le sol est dégelé, si le sol est encore frais, parce que la plante a besoin de fraîcheur, ça peut encore faire des racines et probablement des feuilles, mais la floraison ne sera pas là. Et en plus, ça peut prendre des années avant que le bulbe récupère assez pour fleurir de nouveau. Alors moi, personnellement, j'aurais mis ça au compost. C'est pas qu'on peut pas récupérer, mais c'est un cas où est-ce que ça vaut la peine de récupérer. Encore voilà. Moi, personnellement, je ne juge pas que ça vaut la peine.
Anne-Marie Gélina, quand vous parlez de garder des bulbes ou des racines au frais, vous parlez de les garder au réfrigérateur ou simplement dans une pièce fraîche de la maison?
Évidemment, ça dépend de quelle plante on parle, mais ça peut être au frigo, ça peut être une pièce fraîche, ça peut être une chambre froide. Il y a des gens qui ont ça comme pour conserver leurs légumes, etc. Un endroit semblable. Évidemment, encore, ça dépend de quoi on parle. Mais le frigo, c'est à peu près 4 degrés Celsius. C'est parfait pour la plupart des plantes qu'on veut mettre en dormance, ou garder en dormance. Donc, c'est excellent pour ça. Une pièce fraîche, moi, j'en ai pas chez moi, mais quelqu'un qui en aurait, si c'est en 7, 8, 9, 10 degrés, pour beaucoup de plantes, ça suffirait pour donner la fraîcheur que certaines plantes aiment avoir. La plupart des plantes qui exigent un hiver frais vont trouver plus que 10 difficiles. Donc, à peu près dans cet ordre-là, si vous voulez.
Ben justement, peut-être une sous-question de ma part par rapport à ce que Patricia Dufresne vient demander. Est-ce qu'un garage pourrait pas être gardé à cette température-là, 7, 8, 9 degrés, plutôt qu'une pièce de la maison?
Absolument. J'aurais dû le dire, merci Michel. C'est que comme je n'ai pas de garage, je n'ai pas d'expérience avec ça. Mais oui, ce qui me surprend, parce que au début, ça m'avait surpris parce que j'en ai déjà un garage quand j'étais petit, puis c'était la même température qu'à l'extérieur. Mais ce n'était pas à côté de la maison. Et de nos jours, les garages sont souvent faits dans le même matériel que la maison, et donc plus isolés que les garages d'autrefois. Il faudrait voir. Et c'est facile de mettre un thermomètre et avoir une idée de ce qui se passe l'hiver dans un garage. Parce que si vous visez, avec la plupart de ces plantes-là, ça, c'est une température qui arrive presque jusqu'à zéro, mais jamais jusqu'à zéro. C'est ça qui serait idéal. Et certains garages sont comme ça, d'autres peut-être pas. En tout cas, chez moi, le garage d'hiver, là, ça ne marchera pas.
Patricia Dufresne, j'ai trouvé très intéressant l'article de ce matin avec les tomates de cannibale. L'avez-vous essayé? On peut rentrer des bulbes, c'est fantastique. Il
ne faut pas confondre les choses. L'article, en fait, parlait de 6 légumes méconnus, je pense. Et je les ai un peu fait de façon à commencer avec les plus faciles à trouver, les plus compliqués à trouver. Et la tomate et cannibale était le tout dernier. La tomate et cannibale, ce n'est pas une plante qui fait un bulbe. Ça, c'était la plante champignon. Qui lui, non, je me dis, ouais, c'était plutôt, il faut que je remonte encore, j'essaie de penser mes autres. C'est le cucumélon. Le cucumélon qui est comme un melon, c'est gros comme ça, c'est la même couleur qu'un melon d'eau, et ça goûte un peu le concombre très sûr. Et ça fait un tubule, en fait, tubercule, qu'on peut récupérer et replanter. Mais pas la tomate des cannibales. La tomate des cannibales, ça doit se ressemer à tous les ans. Et d'ailleurs, c'est la plante la plus difficile à trouver sur la liste. Toutes les autres que j'ai mis étaient assez facilement disponibles, peut-être pas dans n'importe quel centre-jardin, mais moyen de les avoir. Ça, c'était à faire venir de l'extérieur. Je me permets de faire ça parce que c'est parfaitement légal et facile qu'on ait des semences qui viennent d'ailleurs, d'un autre pays. C'est légal. Et les gens n'osent pas, ils pensent que c'est illégal, mais nous, on peut le faire. Mais il faudrait aller à l'extérieur pour les trouver. Et ce n'est pas une plante vivace, pas chez nous, c'est annuel. Il faut recommencer tous les ans. Ça se cultive comme une aubergine. Donc, un peu plus compliqué qu'un tomate ou un poivron, mais dans la même catégorie.
Steve Gagnon, il dit qu'il y a de la misère à trouver l'hormone d'enracinement la plus forte pour les plantes ligneuses. Est-ce que tu connais un fournisseur?
Comme tel, non. J'aurais cherché sur l'Internet. J'essaie de visionner dans ma tête la bouteille, mais je ne me souviens pas de marque Stimulex ou quelque chose comme ça. Mais il y a moyen de l'avoir. C'est chercher sur l'Internet. Il doit y avoir quelqu'un qui l'a. C'est peut-être que des centres jardins qui n'en ont pas. Vous comprenez, ils n'en vendent pas beaucoup. C'est pour des gens très, très, très sérieux. Et s'ils vendent surtout pour des jardiniers, disons, au niveau moyen, là, ils n'en ont pas besoin tellement. Voilà.
En assez rapidement, la question de Simon Citron. Quelle est la plante ornementale qui fleurit le plus longtemps sous nos latitudes?
Oh, la plante que je connais qui fleurit longtemps, c'est le corydelle à fleurs de lait, à blanc de lait. C'est une plante qui fleurit de mai jusqu'aux neiges. Et deuxièmement, sur un autre corydelle, le corydelle jaune, qui est beaucoup plus facile à trouver, qui fleurit de juin jusqu'aux neiges. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un arbuste aussi, dans la catégorie D, et j'essaie de trouver son nom bien vite, et ça ne vient pas l'esprit, la daphné transatlantique, qui peut fleurir presque aussi longtemps. Mais ces plantes-là fleurissent essentiellement, c'est toujours un fleur. Un très bon choix, c'est le géranium rosanne. Ça, ça fleurit pas aussitôt, mais ça fleurit très longtemps. Une excellente vivace, ça. Et voilà.
On va peut-être... Ah non, on a malheureusement plus de temps. C'est la fin de l'émission.
OK, ben voilà, dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne semaine de jardinage. Et là, on peut commencer vraiment à jardiner, là. Des petits amis à faire, des boutures à prendre, des plantes à dormance, à mettre à la chaleur, etc., etc. Donc, commençons tranquillement à jardiner et en profiter des belles journées où il fait soleil. Et il fait doux, on va pouvoir aller dehors et se bronzer, hein, quasiment. Voilà, bye-bye et à la semaine prochaine.
Bye-bye. C'est fait.
OK. Parfait. Là, cette semaine, juste pour dire, mon visage à moi a bougé tout le long, sauf vers 5 minutes, 10 minutes de la fin. Là, ça restait gelé encore.
Ah ouais?
Toi, actuellement, ce que tu me vois, moi, je me vois en deux parties.
Et non, mais moi, moi, honnêtement, il n'y a absolument rien qui a gelé, là. Absolument rien.
Moi, c'est encore gelé. Et pourtant, le banderole en bas, pareil, disparaît, pas de problème. Mais moi, quand je regarde ça, je pourrais être... Oh non, ça ne donne rien. Je pourrais te faire une CG d'écran fixe. Ça ne dit rien.
Ça ne dira rien.
Ça ne donne rien du tout. Mm-hmm. Voilà.
Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut
être. Peut-être que c'est un problème de l'autre côté et c'est mieux cette semaine.
Ouais. Mais en tout cas, comme je te dis, moi, j'ai zéro... Ça a zéro buggy, là. Zéro, zéro, là.
Okay.
Fait que... je pense que c'est la fin pour aujourd'hui.
Parfait.
Je vais te laisser aller te reposer.
Ah ben, il faut que je travaille.
Oui, mais je veux dire, à tout le moins, reposer ta voix.
Oui, ça, oui. J'ai besoin de faire ça. OK.
Donc, on se reparle la semaine prochaine.
Parfait, bye-bye.
Bye-bye.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça.
Mais qu'est-ce qu'on mange?
Ni ça. vous protège pas de ça.
De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
Ou ça. Ou même de ça.
Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale.